Il est l'heure de retrouver donc notre invité, mon invité, sur cette antenne Fréquence Mistral. Il s'agit de Jean-Louis Caribou, qui est venu il y a peu de temps déjà pour nous parler d'handicap évasion. Et aujourd'hui, donc, c'est sur votre dernier né, votre livre Au bout du monde, un livre autobiographique, Jean-Louis.
Oui, c'est un livre en grande partie autobiographique, un romancé quand même. Voilà, que j'ai écrit pendant le dernier confinement.
Ça raconte vos débuts dans ce métier d'instituteur, dans un village perdu, un village perché.
Oui, effectivement. Bon, pendant le confinement, bon, j'étais un petit peu désemparé, vacant de tout investissement associatif et activité sociale. Et ça faisait longtemps que j'avais envie de raconter cette histoire-là, parce que c'est l'histoire d'une aventure humaine un peu exceptionnelle que j'avais vécue il y a fort longtemps, il y a une soixantaine d'années à peu près. Et là, bon, étant complètement libre, j'ai pris une feuille de papier, un crayon, et puis là, l'histoire a revécu. Elle a revécu en coulant de la plume, et c'est un petit peu le miracle de l'écriture. On fait revivre des événements passés, et puis on sait aussi que le lecteur revivra ce qui n'existe plus. Donc j'ai revécu moi-même, en écrivant cette histoire, ces souvenirs, j'ai revécu quelque chose de très fort. Et ça m'a fait un grand plaisir de l'écrire. Et effectivement, c'est une aventure un petit peu extraordinaire, parce que, comme vous le disiez, c'est l'histoire d'une nomination, alors que j'étais à l'époque jeune instituteur débutant. J'étais dans les Pyrénées-Atlantiques, dans mon pays basque natal, et j'attendais ma nomination. Et ma nomination, eh bien, on m'a appris par téléphone qu'elle était au fin fond des Basses-Alpes. À l'époque, ça s'appelait les Basses-Alpes. J'ai regardé sur une carte, il s'agissait de Morin, Saint-Paul-la-Barge, dans la haute vallée de l'Ubaye, et c'était à près de 1000 kilomètres de chez moi. Donc j'ai fait 1000 kilomètres avec ma bonne vieille 4 chevaux, et j'ai débarqué dans un minuscule hameau, le hameau de Morin, qui fait partie de la commune de Saint-Paul-sur-Ubaye, où il y avait une quinzaine d'habitants, et j'ai pris possession de mon premier poste avec 4 élèves.
Oui, c'est ça qui est tout à fait surprenant. D'ailleurs, dans votre livre, vous mettez une photo de la moitié de la classe, donc 2 élèves. C'est, comment vous avez vécu ce... Enfin, vous en parlez dans le livre, mais oui. Cette adaptation à un... Vous quittiez le Pays Basque donc pour venir jusqu'à ce village perdu.
Eh bien, oui, alors bizarrement, j'étais à la fois un petit peu consterné mais émerveillé. Consterné pourquoi ? Parce que j'avais été nommé dans ce village-là par mesure disciplinaire. Par mesure disciplinaire, alors je vais de suite rassurer les auditeurs éventuellement. 2 ans auparavant, avant d'entreprendre d'autres études, j'avais fait, quand j'étais normalien à l'école normale d'Avignon, il m'était arrivé de faire le mur. À l'époque, c'était assez fréquent, quand on est potache, de faire le mur de l'école normale, mais à l'envers, c'est-à-dire de l'extérieur vers l'intérieur, parce que c'était les premiers jours des vacances scolaires d'été, et l'établissement était fermé, nous n'avions plus le droit d'y pénétrer, et pourtant, nous attendions les résultats du baccalauréat, qui devait être affiché en ville, dans le hall du journal, ça s'appelait le Provençal à l'époque, et je n'avais pas la possibilité de dormir à l'école normale, et j'avais un train pour le Pays Basque, tard dans la nuit, donc j'étais obligé de prendre un hôtel, et j'avais demandé la faveur au directeur de l'école normale de coucher une nuit supplémentaire. Ah, mais non, règlement, le règlement interdit, ce n'est pas possible. Mais j'avais des amis, des copains normaliens, qui étaient collés, parce que, bon, ils avaient... était un petit peu turbulent dans l'année, et autant de dimanches collés, autant de jours supplémentaires qu'il fallait un petit peu rempiler, un peu comme à l'armée. C'était, les écoles normales avaient un règlement un petit peu militaire, puisque c'était à l'époque, c'était Napoléon qui les avait créés, c'était un régime aussi rude que celui de l'armée, avec le réveil le matin au son du clairon, les corvées, etc. Donc les copains étaient collés, eux ils avaient le droit. de dormir à l'école normale. Ils étaient collés autant de jours qu'ils avaient été collés de dimanche pendant l'année. Et ils me demandent, tu n'aurais pas la gentillesse de venir nous annoncer les résultats du bac? Mais oui, oui, bien sûr. Alors, j'arrive nuitamment, et je fais le mur, bien sûr. Et là, pendant que j'annonce les résultats à mes camarades, le directeur faisait sa tournée, et il m'a surpris. Bêtement, je n'ai pas pu me planquer, et il était persuadé que je venais subrepticement enfreindre son interdiction et coucher à l'école normale. Dit, vous passerez un conseil de discipline en automne. À l'automne, je n'y suis pas revenu parce que je poursuivais d'autres études ailleurs. Donc, j'ai refusé le conseil de discipline, mais malgré tout, j'ai voulu terminer ma formation d'instituteur avant de terminer d'autres études. Et quand j'ai voulu postuler, je pensais que je serais, qu'on avait perdu ma trace. Je m'étais absenté pendant 2 années. Mm-hmm. Mais l'administration ne perd pas ses ouailles comme ça. On savait très bien où j'étais passé, parce qu'entre-temps, j'avais suivi des études à Toulouse, puis à Pau, dans les Basses-Pyrénées. Et c'est là qu'on m'a appris que j'étais nommé dans le poste le plus déshérité des Basses-Alpes, et peut-être même de France, à 1900 mètres d'altitude, à 1000 kilomètres de mes Pyrénées basco-béarnaises. Et le pire, c'est que quand je suis arrivé dans ce village, on m'a appris que très vite, là, dès le mois d'octobre, la première neige tomberait et que nous serions bloqués pendant au moins 6 mois parce que la route n'était pas dégagée par la chasse à neige et il y avait une dizaine de kilomètres à franchir à ski depuis le village en bas de Sorène pour atteindre le village de Morin, la Barge exactement. Donc, voilà, c'était un petit peu...
L'isolement total.
Et moi, j'étais à la fois surpris de la punition, mais en même temps émerveillé, parce que la montagne, la neige, j'en rêvais depuis mon enfance. J'en rêvais parce que j'avais lu, un peu comme tous les gamins et les ados de mon âge, les livres à l'époque de Roger Frison-Roche, Premier de cordée, La grande crevasse, etc. Beaucoup de livres sur l'alpinisme. Un écrivain béarnais que j'adorais, qui s'appelait Joseph Peyret, avait écrit un livre magnifique sur le Matterhorn, le fameux Mont Cervin, et l'histoire dramatique de son ascension. Donc j'étais pétri de lecture d'alpinisme, et ces Pyrénées, j'étais au bord des Pyrénées, au Pays Basque, et je les voyais dans le lointain, tout enneigé en hiver, et je rêvais de montagne, je rêvais d'alpinisme, je rêvais de neige. Et en même temps, comme j'étais issu d'un milieu rural, que je passais toutes mes vacances estivales dans la ferme de mes grands-parents à partager les travaux agricoles, c'était mes racines rurales, je retrouvais dans le poste où j'étais affecté, qui était un village de montagnards paysans, bien sûr, je retrouvais mon enfance et mon adolescence rurale avaient les mêmes travaux, encore plus difficiles, parce que c'était en haute montagne. Et là, c'était absolument le ravissement, parce que c'était un bain de jouvence, je me retrouvais dans mon enfance, dans ma jeunesse, et c'était mes rêves de jeunesse, mes rêves de montagne, d'alpinisme, de neige, de ski. Donc c'était le ravissement total, et en plus une population, les 15 habitants qui habitaient à cette époque-là, ce petit hameau de la Barge, étaient tous merveilleusement accueillants, souriants et d'une grande gentillesse. Donc c'était un souvenir absolument éblouissant que j'ai eu infiniment de plaisir à coucher dans les pages, et en même temps j'ai fait revivre cette période absolument inoubliable. Voilà, donc c'est ce que je raconte dans ce livre.
Oui, et vous racontez même, alors c'est pas romancé, une histoire, vous êtes dans la neige, en difficulté, en hypoglycémie.
Oui, c'est une aventure, enfin une aventure.
Ça vous est arrivé ou...
Oui, bien sûr. Effectivement, je raconte cette anecdote. Une fois, j'ai voulu avec un jeune homme qui habitait ce village, qui était un peu plus jeune que moi, qui devait avoir 18 ans, moi j'en avais 21, donc nous étions de la même génération, c'était Alain Signoret. Donc il passait l'hiver chez ses parents, parce qu'il était menuisier de son métier, et il s'était blessé, donc il était en convalescence, donc il était bloqué un peu comme moi dans le village, et en qualité de bons montagnards. Bien sûr, il était skieur, très bon skieur, et il se destinait aussi à être moniteur de ski, ce qu'il a réussi par la suite. Il m'avait proposé un dimanche d'aller dans une station de ski, la station de Sainte-Anne, qui se trouve dans la haute vallée de l'Ubaye, au-dessus de la Condamine. Il m'a dit, voilà, mais là, je pourrais t'apprendre à skier, parce qu'il y a des remontées mécaniques, c'est une vraie station, alors qu'ici, à la barge, eh bien, il n'y a absolument rien, il faut remonter à la force des jarrets, la pente, et puis après les dévaler sur des pistes qui ne sont pas aménagées, qui ne sont pas préparées. Là, tu pourras faire des progrès. Donc, on descend à ski jusqu'à ma voiture que j'avais laissée à Serennes. On fait nos 8 km de ski à la descente. On prend ma voiture, on monte à la station de Sainte-Anne, et là, on skie toute la journée. Lui, mon moniteur, expérimenté, bien sûr, et moi, débutant, avec toutes les chutes que l'on peut imaginer quand on est débutant, et on skie toute la journée comme des forcenés. Et à la fin de la journée, la nuit commence à tomber, il commence à faire froid, il faut repartir, donc on reprend la 4 chevaux. Je la laisse à Serennes, puisque c'était l'endroit où je la laissais pendant tout l'hiver. Et là, il fallait remonter
les 8 kilomètres.
Les 8 kilomètres à ski, après la fatigue d'une journée. Et sans avoir rien mangé ni rien bu, ça c'est l'inconséquence de la jeunesse, les habitants de Moret m'avaient averti, m'avaient dit, apportez quelque chose dans votre musette, quelque chose à grignoter, des biscuits, du chocolat, un morceau de pain, quelque chose, oh, c'est pas la peine, on est jeune. Et là j'ai été pris d'une crise d'hypoglycémie, et alors j'ai cru que je n'arrivais pas au bout. Oui. C'était infernal. Quand on est pris par... cette hypoglycémie, on est complètement paralysé, on ne peut plus avancer, et on a une envie, mais une envie absolument irrépressible
de dormir,
de se coucher, de s'allonger dans la neige. Et heureusement qu'Alain était là. Lui, bon, il avait beaucoup moins forcé que moi, parce que c'était un bon skieur. Moi, j'avais vraiment énormément forcé. J'étais en état d'épuisement. Et heureusement qu'il était là. Et il me disait, allez, mets tes skis derrière mes skis. Allez, je fais un pas, tu fais un pas, je fais un pas, tu fais un pas, tu me suis, encore un, encore un, encore un. Et alors là, tout en montant, je me remémorais, parce que c'était un petit peu un de mes travers. chaque épisode de ma vie, je le resitue à des événements littéraires qui ont nourri toute ma vie, parce que toute ma vie j'ai été effectivement pétri de références littéraires, parce que j'ai toujours adoré lire, j'ai lu des milliers et des milliers de livres, et là je vivais une expérience racontée par Saint-Exupéry dans Terre des Hommes, où il raconte cette histoire d'un aviateur qui traverse la cordillère des Andes, qui se crache à 4000 mètres d'altitude, et là... il est à des journées et des journées et des journées de marche du premier village habité, et il est tout seul. Il n'est pas vêtu pour affronter une grande marche de plusieurs jours dans la neige, dans le froid, et il marche, et il marche, et il marche, et il dit un pas, encore un pas, encore un pas. Et plus tard, il dira, ce que j'ai fait, même un animal ne l'aurait jamais fait. C'est pas possible. Et finalement, il s'en est sorti, à force de courage, à force de résistance, à force d'entêtement, il y est arrivé, un pas, encore un pas. Et moi, je me disais, allez, vas-y, tu fais comme Guillaume de Saint-Exupéry, un pas, ça. Encore un pas, encore un pas. Et je suis arrivé complètement épuisé, mais bon, ça m'a beaucoup marqué. Et Alain, ce jour-là, bon, cette fois-là, ce soir-là, ça a été un petit peu mon sauveur, parce que s'il n'avait pas été là, je pense que je n'aurais pas résisté à la tentation de m'allonger dans la neige et de dormir. Et dormir dans le froid et dans la neige, c'est fatal.
C'est la mort assurée, oui.
Oh, c'était une petite anecdote, mais voilà.
Oui, bah, quand même. Oui, donc une belle aventure finalement, une belle punition pour vous que d'avoir été muté dans ce village.
Ah, mais c'était
vous
merveilleux.
Vous avez découvert la vie, une vie un peu familiale quand même, avec l'accueil de...
Mais oui, j'étais accueilli dans une maison, justement dans la famille d'Alain, dont je viens de parler, la famille Signoret. Et là, il y avait donc le père et la mère d'Alain, et il y avait la vieille tante qui était une dame très instruite, parce que ça, je l'ai constaté de suite en arrivant dans ce village. J'ai constaté que les gens étaient très cultivés, parce que tout l'hiver, à cette altitude-là, il n'y a pas grande occupation, à part s'occuper du troupeau, donner à manger, à boire, réparer quelques outils. Bon, les femmes, c'est pas pareil, parce que elles ont des tâches ménagères supplémentaires, les enfants, la cuisine, la lessive, etc., etc. Mais bon, les hommes, eux, ils sont un petit peu libérés du travail harassant de la terre, qui est limité du mois de mai au mois d'octobre. Ils ont l'habitude de lire, toutes les familles lisent d'ailleurs. J'avais amené sur les consignes de mon prédécesseur que j'avais rencontré, Louis Tessier, j'avais apporté 2 caisses de livres et tout le monde lisait pendant l'hiver. Donc les habitants de cette vallée et de l'Ubaye en général étaient et sont toujours très cultivés, s'intéressent à la lecture, s'intéressent à la littérature. C'était extraordinaire, fascination pour la lecture. J'y retrouvais un petit peu mes goûts, j'y retrouvais mes racines. C'était assez merveilleux. Mais alors cette vieille tante, elle était un petit peu le symbole de la culture des habitants de l'Ubaye. Oh là là, sur les histoires, l'histoire de France, par exemple, elle en savait bien plus que moi, la géographie, etc. Donc elle était intarissable et c'était assez extraordinaire.
Et puis vous parlez bien sûr de la nourriture aussi, familiale, le cochon, voilà, qui vous ramenait à vos souvenirs d'enfance quand on tue le cochon.
Oui, bien sûr, mais c'est à Morin, comme dans mes Pyrénées natales et dans ma ferme, la ferme de mes grands-parents, l'alimentation paysanne est comparable. C'est surtout à base de cochonaille, c'est la seule viande quasiment que l'on trouve à table, à part exceptionnellement quelques produits de la chasse, mais bon, ça c'est exceptionnel quand l'occasion s'en présente. Sinon, c'est essentiellement des soupes, du pain, beaucoup de pain, des laitages, des fromages, voilà, et la cochonaille. Et la tuerie du cochon, ça la tuerie, ah, c'est vrai que pour un enfant. Et alors, oui, là je fais une petite parenthèse parce que effectivement dans le livre que j'ai écrit, je fais beaucoup d'allers-retours avec mon enfance pyrénéenne parce que tout ce que je découvre dans ce village des Basses Alpes, j'y trouve beaucoup de similitudes avec mon enfance rurale basco-béarnaise dans les Pyrénées. C'était les mêmes coutumes, c'était les mêmes habitudes dans ce milieu rural et la cochonaille, bon, c'est universel. C'est universel, donc là je fais référence à la cochonaille dans ma ferme paternelle, dans ma ferme béarnaise. Quand on tuait le cochon, le plus horrible, ce n'était pas tellement le jour où on le tuait, mais le soir même, le cochon tué était ouvert en deux, éventré, éviscéré, et on le pendait, on l'accrochait à une échelle, il fallait refroidir, reposer la viande, et c'était le lendemain qu'on le dépeçait. Mais pour lui faire passer la nuit dans la pièce la plus fraîche et la plus tranquille de la ferme, c'était ma chambre. Donc je dormais en compagnie du cadavre qui était suspendu au pied de mon lit, crucifié sur son échelle, et c'était épouvantable. Alors je faisais des cauchemars toute la nuit, c'était horrible, horrible, ce cochon suspendu, éventré, au pied de mon lit pendant toute la nuit, voilà. Donc beaucoup de similitudes entre ces deux régions, si éloignées l'une de l'autre, si différentes, mais en même temps très semblables par leurs coutumes.
Est-ce que vous avez envie de lire un extrait de votre livre ?
Oui, pourquoi pas.
Allez.
Et par exemple, je peux proposer... Et voilà, justement, je passe 3 premiers mois, je découvre la neige. Je découvre la neige, le ski, cette vie montagnarde. Et au bout de 3 mois, c'est le Noël. Et je retourne au Pays Basque. Donc je descends à ski jusqu'à ma voiture, la 4 chevaux, qui était à 8 kilomètres de là. Et là, je refais le millier de kilomètres pour rejoindre mon pays natal. Et c'est là que je redécouvre ce pays avec des yeux neufs. Alors juste un petit passage pour éclairer ce regard tout nouveau que je jette sur mon pays, comme je l'ai dit tout à l'heure, et qui est à la fois si différent mais si semblable.
Donc Jean-Louis Caribou, avec votre livre « Au bout du monde ».
Ça y est, alors j'y suis. Alors c'est l'arrivée donc en voiture du côté de mes Pyrénées basco-béarnaises. Je décris un petit peu le paysage que je redécouvre avec des yeux un peu neufs. Je lis. La muraille des Pyrénées, toute blanche, qui court sur ma gauche, cède bientôt la place au vallonnement de mes collines basco-béarnaises, et c'est dans un autre pays que je pénètre, un pays dont j'avais oublié la tendresse après 4 mois de rudesse alpine. Douceur des prairies qui arrondissent leurs croupes délicatement dessinées d'une courbe élégante, pâturage tendu d'un vert bien lissé où sont épinglées de blanches brebis qui paissent en porcelaine, douceur du ciel et des nuages en plumes de tourterelles qui ourlent des paysages d'aquarelle. Et puis, les couleurs de la côte basque, le bronze de l'océan, les façades toutes propres des jolies fermes rayées de colombages verts et rouges, le château de ma grand-mère, tout droit sorti d'un conte de fées dressé sur la falaise, et oui, ma grand-mère maternelle y séjourna du temps de sa jeunesse en qualité de femme de chambre. C'est donc le château de ma grand-mère. Et enfin, la maison de parents, son jardin encore fleuri, ses pelouses où des milliers de pâquerettes font semblant d'annoncer le printemps. Ce pays que je retrouve avec des yeux tout neufs est un feu d'artifice de couleurs noyé dans un tableau pastel. Je ne l'avais jamais bien regardé, ce pays de cocagne à l'autre bout de la France, tellement différent de celui d'où je viens, âpre et pur dans le dépouillement de sa blancheur. Quand mes parents m'accueillent dans ma tenue de voyageur de l'extrême, j'ai l'impression qu'ils reçoivent l'alpiniste Maurice Herzog de retour de la Napurna. Et mes cousines poussent des cris de surprise en découvrant la dégaine de sauvage, un peu poète et artiste, que me donne Montem Bazané après un séjour dans les neiges alpines et surtout mes longs cheveux. Je ne suis pas allé chez le coiffeur depuis l'été, qui me font ressembler, affirme-t-elle, à Lenny Escudero, ce chanteur-compositeur engagé à la mode depuis quelque temps, natif d'un petit village navarrais, en Pays basque espagnol. Donc voilà un petit peu la relation de mon retour au pays, un retour un petit peu émerveillé. Voilà, un petit passage.
C'est magnifique, et de vous entendre, c'est drôle, parce que puisque je vous connais depuis quelque temps et que j'ai bien votre voix et votre accent dans la tête, à chaque page que je lisais, je l'entendais, je vous entendais. C'est un vrai plaisir de vous entendre lire des passages.
Oui, merci Odile.
Est-ce que vous lisez un autre morceau, un autre
passage? Oui, mais peut-être ce qui m'a émerveillé en arrivant dans le village, enfin pas émerveillé, ce qui m'a séduit plutôt, ce qui m'a séduit, c'était en arrivant la perspective dans quelque temps d'être bloqué par la neige, d'être isolé du monde. Je me disais, mais ça, c'est une aventure extraordinaire. Et alors, les habitants, eux, ils redoutaient quand même cette arrivée prochaine de la neige, parce qu'on serait coupé, on ne verrait plus personne, à part le facteur, presque tous les jours, à part de temps en temps quelques douaniers qui font leur tournée. C'était surtout les femmes qui le redoutaient, parce que les hommes, eux, ma foi, ils s'en échappent un peu de l'isolement, ils vont à la chasse, ils bougent un petit peu, mais les femmes, elles sont vraiment prisonnières. Et entre autres, j'en profite pour préciser que dans ce livre, mon récit, je le fais à 3 voix, donc c'est moi qui raconte cette aventure, mais je passe la voix, pour certains chapitres, à une jeune fille du village, qui est la sœur d'Alain, dont je parlais tout à l'heure, justement, Colette, et c'est elle qui raconte un petit peu, qui fait un petit peu le contrepoint de mes propos. Moi, je suis en attente impatiente de cet isolement dans la neige, et elle redoute l'arrivée de la neige, parce qu'elle sait que c'est fini, pendant 6 mois, elle ne verra plus personne. Pour une jeune fille de 16 ans, c'est terrible de se retrouver coupée du monde dans ce village où il n'y a que 15 habitants, il n'y a rien à faire, pas de réjouissance, absolument rien, à part aider un petit peu aux tâches ménagères. Donc Colette, elle redoute l'arrivée de la neige, et moi je l'attends avec impatience, mais ça va être merveilleux. Je vais me retrouver bloqué pendant 6 mois, mais c'est extraordinaire, comme les trappeurs du Grand Nord, comme les trappeurs dont j'avais lu les aventures dans les livres de Jack London, que je lisais à l'époque. Alors, cette première neige, donc...
Juste pour faire un... Oui. Parce que j'étais surprise à un moment, vous parlez de ma robe bleue au féminin, donc c'est Colette qui parle.
Oui. C'est un des chapitres où je passe la voix à Colette, et... Voilà, elle découvre dans un catalogue une robe bleue à se confectionner soi-même. Sa maman avait acheté le tissu et elle se confectionne une robe bleue et voilà, donc elle est toute fière le soir à table de montrer sa robe bleue et elle est un peu déçue que personne ne lui fasse de compliments. Mais voilà, mais ceci dit, en me levant de table le soir pour rejoindre mon école où j'habite, en partant, je lui ai fait un compliment sur cette robe qui était assortie
À ses yeux.
À ses yeux bleus, donc voilà. C'est une petite anecdote, donc, mais c'est elle qui le raconte, donc elle est quand même contente de voir que le maître a remarqué qu'elle avait une belle robe bleue. Voilà, donc la première neige, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué dans ce village-là. Alors, la page... Elle est là, la première neige, attendue par les habitants de Morin, qui l'acceptent avec fatalisme, car c'est le rendez-vous du cycle de la nature et qu'ici, à notre altitude, elle est inévitable. Ils l'attendent parce qu'ils sont prêts à affronter le siège des longs mois d'hiver, mais même si tout est prévu et les provisions bien à l'abri, dans les greniers, les placards, les remises, les caves et les bergeries voûtées qui ancrent les maisons dans la chaleur de leur terrier, j'ai bien senti que les femmes la redoutent un peu. C'est surtout Colette qui a du mal à cacher l'angoisse de la réclusion qui s'annonce et j'ai honte de me réjouir. Mais j'essaye de ne pas afficher l'euphorie qui m'a gagné à la perspective d'une expérience nouvelle pour moi. Ce n'est qu'une première alerte, et cette couche d'une trentaine de centimètres sera facilement dégagée de la route grâce au chasse-neige artisanal fabriqué sur place et tiré par la jument d'Étienne Signoret. C'est une simple étrave en bois qui racle la route et qui permet de reculer quelque temps l'échéance de l'isolement. J'ai voulu fixer l'événement et je me suis précipité pour photographier le départ de l'attelage. On y voit Étienne Signoret, tenant la jument par la bride, scrutant les flancs de la montagne où il vient de repérer un chamois. Le chamois est toujours aux aguets et le chasseur sait d'instinct et d'expérience où se réfugient les animaux sauvages dès les premières neiges. Il y a Arthur, penché sur le sasse-neige, dont il rafistole une planche mal fixée. On y voit aussi Joseph qui se retourne vers la mule et enfin Michel, mon élève, qui suit une pelle sur l'épaule. Le passage aller-retour de l'engin, complété par les finitions à la pelle, a rendu l'accès au village à peu près carrossable. C'est un répit. Un répit temporaire car le déneigement précaire a laissé des plaques de neige tassées que le gel nocturne va transformer en glace, mais pour des conducteurs expérimentés, Morin est encore accessible en attendant la prochaine chute de neige. Et la voilà, cette nouvelle chute. Cette fois, je le sens, c'est la bonne. Elle a commencé vers midi dans un tourbillon de gros flocons qui se posent en silence. Derrière la vitre, je contemple ce voile blanc qui s'effondre lentement, sans cesse renouveler. Il efface le monde dans un lien ouaté, accompagne la tombée du jour dans une lueur tremblante et disperse dans le vide de la nuit la blancheur arrachée aux étoiles. Le jour naissant s'est annoncé sur la pointe des pieds, sa faible lueur noyée dans les déluges blafards qui semblent s'installer pour l'éternité. Ce n'était qu'une illusion car un rayon de soleil perce le matin blanc, une lucarne bleue apparaît dans le ciel et je découvre un paysage inconnu derrière le mur de neige que le vent a soufflé contre la porte de l'école. Dans la lumière maintenant aveuglante, j'assiste au premier matin d'un monde ressuscité. Les sommets ont disparu. Gommés par les écharpes des derniers lambeaux de nuages, ils ne sont pas encore nés du plissement alpin. Les plans rapprochés sont mollement arrondis sous l'épaisse couche de neige fraîche et camouflent leur rugosité en devenir par des courbes indolentes. Les maisons sont des taupinières de farine, les forêts de mélèze, à peine émergées du déluge, sont poudrées de laitance, le silence étouffe les timides signes de la vie qui s'éveille. Tout est neuf, propre, vierge. C'est la pureté originelle. Cette fois-ci, le chasse-neige rudimentaire ne servirait à rien, la jument s'enfoncerait dans la poudre jusqu'au poitrail, et nous voici coupés du monde d'en bas.
Merci Jean-Louis Caribou, c'est un vrai bonheur de vous entendre lire ces extraits de votre livre Au bout du monde. Il me venait l'envie de vous faire venir plus souvent sur Fréquence Mistral pour nous faire des lectures de vos œuvres. Et vraiment, merci beaucoup. On peut retrouver ce livre dans toutes les bonnes librairies.
Alors. Dans un premier temps, j'ai édité ce livre à compte d'auteur et je l'ai distribué personnellement dans les librairies de Digne, bien sûr, dans celle de Lubaye, de Barcelonnette à Josier, mais aussi à Manosque, parce que j'ai des attaches à Manosque, puisque j'ai été consultant littéraire au Centre Jean Giono pendant 20 ans, donc on le trouve au Centre Jean Giono, mais aussi dans la librairie manosquine Le Petit Pois. On le trouve dans une librairie de Gap. Et on le trouve aussi, j'étais dernièrement au Pays Basque, où j'ai gardé la maison familiale, et j'ai eu l'occasion d'y rencontrer une journaliste qui doit publier un article sur ce livre, parce que je fais beaucoup de références à mes racines basco-béarnaises, donc le Pays Basque y est longuement cité, et un article doit paraître dans le journal local dans les jours qui viennent, donc le livre Au bout du monde est en vente aussi dans les librairies du Pays Basque. Et prochainement, une association locale d'Olibay, qui est connu, qui s'appelle La Sabensa, m'a proposé de le rééditer. Donc il va être réédité plus largement et être distribué aussi plus largement dans toute la région, j'espère.
Eh bien, quel bonheur. Voilà. Quel bonheur. Bon, vous avez une belle plume, ça, c'est rien de le dire, mais c'est donc écrit pendant la période du Covid. Vous êtes retourné donc dans ce village.
Et oui, j'y suis retourné. Après avoir écrit le livre, mais j'y étais retourné avant, mais le confinement avait fait une parenthèse, bien sûr. Et à la fin du confinement, j'y suis allé pour voir un petit peu ce que devenait ce village qui m'avait charmé. Alors bien sûr, pas mal de choses ont changé.
En bien
et en mal. Bon, les personnes âgées que j'avais côtoyées sont maintenant au cimetière, malheureusement. Les jeunes sont partis. Mais il y a de nouveaux arrivants, des gens qui se sont réinstallés dans ce village, dont les maisons ont été restaurées. Donc au niveau architectural et patrimoine bâti, c'est plutôt mieux, parce que ce qui était en ruine ou en mauvais état a été restauré par les enfants, les descendants des habitants. Il n'y a plus de culture, bien sûr, puisqu'il n'y a plus de vie agricole. C'est trop dur à cette altitude, la pratique agricole. Il n'y a plus de troupeaux, sauf les troupeaux transhumants qui viennent de la Basse-Provence et qui traversent le village pour aller dans les alpages d'altitude au mois de juin jusqu'au mois de septembre-octobre. Malgré tout, les champs qui autrefois étaient cultivés sont devenus des prairies de fauche et elles sont toujours entretenues par quelqu'un du bas de la vallée qui vient les faucher. Donc le paysage est resté quand même à peu près comme il était. Bien entretenu, pas embroussaillé, les maisons sont retapées. Quelques habitants sont revenus soit pour y vivre leur retraite, soit pour y passer quelques mois d'été. Donc ce n'est pas un village moribond, c'est un village qui annonce une amorce de regain, de renaissance. Donc c'est avec un petit pincement au cœur que la dernière fois que j'y suis allé, j'ai été invité par un de ces revenants qui buvait le café devant sa maison, qui m'a ailé. Je lui ai raconté que j'étais l'ancien instituteur. Il m'a invité à partager le café. Il me dit, ah ben oui, il m'a raconté son histoire. Il m'a dit, mais nous, ici, nous sommes des Gaulois. Nous sommes le dernier village de Gaulois résistants. On résiste à l'exode rural. Et ça m'a fait très plaisir de voir que des gens s'accrochent à ces vieilles valeurs que partageaient les gens autrefois. Donc, en même temps, c'est un retour vers le passé de ma jeunesse, et ça m'a fait très plaisir de voir que le village n'était pas complètement mort, mais amorcé un mouvement de renaissance, comme d'ailleurs quelques villages des Alpes de Haute-Provence. Quand je suis arrivé, donc il y a une soixantaine d'années dans ce département, j'avais dénombré 30 villages complètement morts, complètement abandonnés. D'ailleurs, Giono en parle dans Regain, dans beaucoup de ses livres, il parle de ces villages moribonds, et ces villages abandonnés, depuis quelques années, il y a une espèce de mouvement de retour, de regain, de renaissance. Il y a des villages qui renaissent de leurs cendres. Je pourrais en citer quelques-uns. Il y a Tanaron, il y a le village du Vieux Bradas qui a été en partie restauré. Il y a le village du côté du Haut-Verdon. Donc il y a des villages à droite et à gauche, un peu partout, même dans la montagne de Lure, qui ont tendance à renaître un petit peu, non pas avec une activité agricole qui permet de vivre, mais des gens qui se sont retirés, qui travaillent à distance ou qui sont retraités. Et enfin, il y a quand même une amorce de retour. Et le rêve un petit peu utopique de Giono dans son livre « Regain », où il rêve d'un village qui renaît vraiment, eh bien, c'est un rêve j'ai l'impression qu'il est plutôt en train de se réaliser, et c'est le cas de Morin, donc ce village que j'avais connu vivant, comme il y a des milliers d'années, eh bien, il est en train de revivre d'une autre manière.
Est-ce que ce livre, Au bout du monde, amènera une suite
Dans ce livre, je fais souvent le parallèle entre le pays dont je rêvais dans ma jeunesse, qui était le pays de mes lectures de l'œuvre de Giono, parce que j'en rêvais de ce pays de Regain dont je viens de parler, et de Comajo demeure et de Colline de Giono. Mais en même temps, j'étais nourri de littérature locale et des écrivains de mes Pyrénées basco-béarnaises, et en particulier un écrivain qui n'est plus trop lu maintenant, mais qui avait charmé ma jeunesse, Pierre Loti, qui a vécu à Andaye, la localité aux portes de l'Espagne, et au bord de l'océan et des Pyrénées, où j'ai toujours ma maison paternelle. Pierre Loti avait charmé mon enfance par sa description du Pays Basque, et je me sentais un petit peu, dans le livre qu'il avait écrit, Ramuncho, je me sentais un petit peu l'incarnation du héros de ce roman, Ramuncho. Ramuncho, c'est un Basque comme moi, mais il est Basque par sa mère, comme moi. Son père n'est pas basque. Mon père n'était pas basque. Il était béarnais. Donc je trouvais beaucoup de similitudes entre le héros de ce roman, Ramuncho, et moi, d'autant plus que nous partageons les mêmes passions. Ramuncho était passionné de pelote basque, et dans ma jeunesse au Pays Basque, je pratiquais la pelote basque en compétition. C'était ma passion. J'étais un passionné vraiment de ce sport. D'ailleurs, c'était un des rares sports que l'on pouvait pratiquer à l'époque. Il n'y avait pas toute la multitude d'activités sportives que les jeunes peuvent découvrir maintenant. J'étais passionné par ça. Et Ramuncho, dans le roman de Pierre Loti, il est aussi contrebandier. Donc c'est sa deuxième passion. Et moi, je n'étais pas contrebandier, mais j'étais fils de douanier. Et je vivais les histoires de contrebande d'une manière extraordinaire. J'intervenais des fois auprès de mon père, qui m'amenait en patrouille dans les montagnes, nuitamment. Donc c'était fabuleux. Et Ramuncho, dans le roman de Pierre Loti, il est partagé comme moi, il est partagé entre l'attachement à ses racines rurales de ce pays qu'il adore, dont il est pétri, mais aussi l'envie d'un ailleurs. Ces montagnes du Pays Basque, elles l'oppressent un petit peu. Il rêve d'un ailleurs. Il est très partagé, écartelé entre les deux. Et moi, c'était pareil. C'était pareil parce que j'étais très attaché à mes racines rurales, mais en même temps, j'avais envie d'un ailleurs. C'est ailleurs que j'ai découvert à l'occasion de ma nomination dans mon premier poste d'instituteur. Donc c'est nourri de ce, à la fois de l'œuvre de Pierre Loti et de l'œuvre de Jean Giono, que j'ai vécu une partie de ma vie. Et pour répondre à votre question, Odile, j'ai en chantier un prochain livre où je veux parler justement de cet attachement que j'ai pour le Pays Basque, pour le pays de Pierre Loti, et je veux proposer aux lecteurs de découvrir le Pays Basque avant qu'il ne soit pas défiguré, mais un peu dénaturé par le tourisme de masse, un Pays Basque dont j'ai connu les vallées mystérieuses et profondes dans ma jeunesse, puisque j'ai suivi mon père à la faveur de ses multiples nominations en qualité de douanier dans différentes vallées, dans différents villages, donc j'en ai connu une dizaine de villages au fin fond du Pays Basque. J'ai beaucoup randonné aussi dans les collines et dans les montagnes du Pays Basque, et le propos du livre que je suis en train d'écrire, c'est de proposer aux lecteurs de découvrir ce Pays Basque profond que je connais très bien par des petites promenades, comme je l'ai fait avec sur les traces de Jean Giono, avec deux livres que j'ai écrits pour proposer de découvrir la Provence de Giono. Donc là, c'est le Pays Basque de Pierre Loti que je décris, et c'est mon Pays Basque de Pierre Loti, c'est pas n'importe lequel, c'est le mien, c'est celui qui s'écarte délibérément du tourisme de masse et qui permet de visiter le Pays Basque profond. Donc voilà, c'est pour répondre à votre question, Odile, c'est mon chantier actuel d'écriture.
Eh bien, on se languit de découvrir ce livre. À bientôt, Jean-Louis Caribou, merci encore, et puis au plaisir de vous recevoir à nouveau sur cette antenne, rien que pour le plaisir de vous entendre raconter.
Merci beaucoup, Odile.
Bonne journée, à bientôt.
Merci, au revoir. Merci.